France Musique.
Une belle journée à vous, Karine Lebaille. On vous retrouve dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, dans l'air des lieux, le rideau se lève sur les théâtres et sur les musiques d'Asie. Nous croiserons dans notre parcours un acteur de l'opéra de Pékin, une célèbre et sulfureuse espionne dont les danses très effeuillées ont échauffé les esprits de son temps. Bref, 2000 ans d'histoire et d'une culture du geste, du jeu des ombres et de la lumière, du costume et du récit chanté ou mimé que l'on peut découvrir en plein cœur de Paris dans le 16e arrondissement. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Aujourd'hui. Voilà, ici c'est un lieu où on fait des expositions en fait, puis à terme ça sera normalement le restaurant du musée. Alors je pense que la rotonde, qui est l'élément en fait le plus frappant de l'architecture du musée, qui est celui qui annonce le musée sur la place d'Iéna, elle permet assez bien de voir où on se situe à Paris, donc pas très loin évidemment de la colline du Trocadéro, donc on est sur la pente qui redescend vers l'Alma. Juste dans l'axe là, la tour Eiffel. Et puis de l'autre côté, quand on se déplace, on a une vue absolument magnifique. Alors aujourd'hui, tout à fait dans le brouillard, mais où on aperçoit à la fois la verrière du Grand Palais, on aperçoit, on la voit mal d'ici en fait. En premier plan, évidemment, on aperçoit le palais de Tokyo, on aperçoit la tour de l'église américaine, la tour de l'église Sainte-Clotilde, voilà. Donc on a une vie très 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 parisienne, et quand il fait beau, on voit magnifique le dôme des Invalides, le plus beau dôme de Paris. L'air des lieux au musée Guimet, musée national des arts asiatiques, sur France Musique, jusqu'à 17h.
Vous avez bien campé la situation d'ores et déjà avant même que je vous pose la moindre question. On fait les présentations tout de même. Sophie Macario, vous êtes la présidente du Musée National des Arts Asiatiques, le musée Guimet. Mais vous tenez à l'appellation avant même Guimet, Musée National des Arts Asiatiques. C'est important parce qu'ici, vous me dites si je me trompe, on est dans le musée qui réunit la plus riche collection dédiée aux arts asiatiques, en dehors évidemment du continent asiatique lui-même.
Oui, alors c'est un musée particulier. C'est un musée en fait qui couvre une aire géographique et de civilisation très vaste. Donc qui commence en fait, on va dire, aux limites de l'Iran, en Asie centrale, l'Ouzbékistan n'est pas tout à fait dans notre apanage, mais plutôt le Tadjikistan. Et on va évidemment jusqu'à l'archipel japonais, Japon inclus bien sûr. Donc un très vaste ensemble de pays, alors petits pays, grands pays évidemment, avec des monstres comme l'Inde, la Chine, vous voyez, donc des colosses. Un élément de civilisation qui unifie ou qui a unifié ce tout, qui est le bouddhisme. Donc je tiens beaucoup à cette appellation, oui, parce que il faut bien dire que Guimet, c'est à la fois un nom qui nous est extrêmement cher, c'est le nom du fondateur, de celui qui fait venir les premières collections, mais ça n'est pas la part la plus importante des collections, il faut le savoir, c'est, disons, un petit cinquième de la collection, pas forcément non plus ce qu'il y a de plus intéressant du point de vue de l'histoire de l'art. Et d'autre part, quand on dit Guimet, eh ben, pour beaucoup de gens, on ne sait pas ce que ça recouvre. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne savent pas que sa passion, sa grande passion, c'était l'Asie, mais pas uniquement d'ailleurs. Donc, annoncer d'entrée de jeu que c'est un musée dédié aux arts de l'Asie, ça me paraît quand même assez important.
Alors on va faire en même temps qu'on va découvrir ce musée des arts asiatiques avec vous, Sophie Macariou, un parcours musical, bien entendu. J'aurais presque envie de vous demander avec quel type de musique et quel répertoire on aurait pu ouvrir cette émission et débuter la découverte et le parcours de ce musée Guimet. Je serais tenté de dire peut-être une composition de son fondateur, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des disques enregistrés, des compositions de Guimet, parce qu'à ses heures perdues, outre la passion qu'il avait pour l'Asie et les religions de ce continent, c'était la musique et c'était la composition.
Absolument. Alors, c'est un auteur totalement méconnu maintenant, il faut bien le dire. Je ne dirais pas qu'il a eu son heure de gloire, mais il a poussé très loin la passion de la musique. Il composait, effectivement, il avait un orphéon. Donc, c'était un de ses grands patrons, pour replacer aussi un petit peu les Guimets dans leur environnement
fils
historique,
hein,
fils d'industriel. Lui-même père d'industriel, c'est Péchinet en fait, la fortune des Guimets, c'est le fameux bleu Guimet qui sert à l'azurage du linge, du papier, etc. Bon, très très grands industriels lyonnais, et effectivement il a une passion pour la musique, et cette passion pour la musique, elle s'exprime de différentes façons. Elle s'exprime à la fois par son goût de la composition, donc il compose lui-même, y compris des oratorios, un oratorio qui sera donné notamment à Londres en 1874, si je ne m'abuse.
Tout de même,
et puis
hein,
tout oui
même.
Oui, tout à fait. Et puis d'autre part, une activité musicale en fait, dans lequel il entraîne les ouvriers de son usine à côté de Lyon, et il a une sorte de chorale avec une fanfare, et cette fanfare viendra par exemple pour l'inauguration du musée Guimet à Paris. Et puis last but not least, il fait en fait construire un théâtre à Lyon. Qui va d'ailleurs, il faut bien dire, quand même beaucoup écorner sa fortune, aussi parce qu'il y fait jouer certaines de ses œuvres. Donc je ne voudrais pas être critique, mais comme je le dis, c'est probablement encore un génie méconnu dans ce domaine.
Ça ne faisait pas tellement recette, c'est ça?
Ça ne faisait pas absolument recette. C'était un théâtre assez moderne, qui a été d'ailleurs ravagé par un incendie. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de malheurs. Le bâtiment existe encore, si je ne m'abuse, maintenant à Lyon, il a été transformé en FNAC, enfin en tout cas en magasin. Et il avait effectivement une passion dévorante pour la musique, y compris pour une musique d'inspiration asiatique, puisqu'il a composé une œuvre qui s'appelle Taizong, donc du nom d'un empereur chinois. Voilà, et tout ça est hélas bien oublié.
Alors, à défaut de commencer avec une musique de Guimet, Sophie Macariou, vous aimeriez qu'on commence avec quel type de musique pour débuter cette visite du musée Guimet, musée des arts asiatiques?
Oh, alors moi, je vais quand même allier tous les goûts qui sont les miens, c'est-à-dire une Asie, et puis une Asie qui regarde aussi un peu vers le Proche-Orient, il faut bien le dire. Donc, Quelqu'un de très grand maintenant, maintenant disparu, Nusrat Fateh Ali Khan.
On débute la visite avec vous, vous nous recevez. Alors, on est privilégié parce qu'on va faire une visite privée. On est mardi, ici, jour de fermeture du musée. Mais je suis sûr de dire que les auditeurs de France Musique entendent qu'il se passe forcément beaucoup de choses dans un musée, y compris un jour de fermeture. Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, le mardi, c'est-à-dire jour de coulisses, on y fait tout ce qu'on ne peut pas faire le reste du temps. En particulier des installations, de la peinture, on sort tout son matériel, on cloue, on scie, voilà, on fait toutes les petites réparations de lumière, ou alors les gros travaux qui pour le moment n'ont pas lieu, quand on installe des expositions où là la maison est transformée en chantier. Ça résonne terriblement dans cette très belle cage d'escalier qui est due à Henri Gaudin. Donc il y a un atout majeur du musée, qui est le geste architectural le plus spectaculaire lié à la rénovation de 2001. Et on a cette espèce d'escalier serpentant extraordinaire, mais qui est une sorte de couloir vertical qui fait circuler tous les bruits du rez-de-chaussée jusqu'au troisième étage où nous nous trouvons.
On vous suit, alors on vous laisse
voilà.
Vous guider.
En faisant attention, en prenant bien la rampe.
Thank you.
voyez, une cage d'escalier quand même assez vertigineuse, très belle, sinueuse, très impressionnante, quasiment un décor de cinéma. J'insiste sur cet espace parce que je trouve que... Alors, on sait bien que l'escalier, c'est le morceau de bravoure des architectes. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une maestria assez extraordinaire dans cette espèce de grand lacet qui descend, qui se prend autour des piliers de béton. Il y a des très beaux piliers de béton coffrés. On voit le coffrage de bois qui les a entourés. Et ça fait une espèce de liane comme ça, dans une sorte de balcon sur l'espace du musée qui est très, très spectaculaire.
Ça vous change de décor, dites Sophie Macariou, vous qui avez été quand même si longtemps, pas très loin d'ici, mais au musée du Louvre, au département des arts de l'islam. C'est à vous quand même qu'on doit aussi la magnifique rénovation et l'ouverture de l'aile qui est consacrée maintenant aux arts de l'islam.
Oui, absolument. Voilà, c'est donc d'un Orient à l'autre. Je suis allée un petit peu plus à l'est. J'ai retrouvé le goût qui est le mien de l'architecture contemporaine. Alors ici, c'est une architecture, si je puis dire, fin de siècle, puisque c'est évidemment un musée dont la rénovation a été conçue dans les dernières années du XXe siècle. Et moi, j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec un très grand architecte au musée du Louvre pour la rénovation, enfin pour la création d'un département des arts de l'islam, donc Rudy Ricciotti et Mario Bellini. Et puis un très bel architecte muséographe, Renaud Pierrat, voilà, pour adjoindre au musée du Louvre une aile contemporaine, ce qui était quand même une véritable gageure dans un musée qui est très très plein.
Évidemment, la musique ne s'expose pas, mais enfin, ces instruments peuvent s'exposer, des partitions, des sources peuvent s'exposer. Elle tient quelle partie ici au musée des arts asiatiques ?
Elle a deux lieux, si je puis dire. Alors, on peut en trouver des exemples, bien sûr, dans l'iconographie des collections, mais aussi dans les collections de la bibliothèque, puisque d'ailleurs, pas si longtemps, on a acheté une partition d'Émile Guimet. Donc, vous voyez, même si c'est un compositeur méconnu, nous honorons sa mémoire. Et puis, alors... on aura exploré le musée, j'irais non pas du grenier jusqu'à la cave, mais enfin du quatrième étage jusqu'au rez-de-jardin, non plus poétique du sous-sol. On a un très très bel auditorium de 276 places où se donnent des spectacles, donc bien sûr de la musique.
Thank you.
là, vous voyez, on a changé d'atmosphère sonore. Ah, quelle joie! On trouve du bois et donc, évidemment, le son est tout différent. Et on est en dessous de l'espace qu'on a d'abord abordé, donc qui est la rotonde du quatrième étage. Ici, on est descendu dans la bibliothèque, au deuxième étage de la bibliothèque. Alors, c'est la bibliothèque d'origine du musée. Évidemment, ça n'est plus actuellement sa bibliothèque. Elle a été transformée en lieu d'exposition. Émile Guimet avait voulu que cette bibliothèque, lieu de savoir, lieu d'accumulation d'ouvrages qu'il commanditait en quelque sorte ou suscitait en partie, puisqu'il a très vite également fondé des revues, il voulait réellement que ce lieu de savoir soit au cœur du musée. Alors, il faut imaginer cette bibliothèque en mars 1905, dans une atmosphère de pénombre. On a donc toute une assemblée parisienne très 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 relevée qui est assise sur des chaises à l'extérieur de la rotonde et qui attend ce qu'on lui a annoncé, c'est-à-dire des danses brahmaniques, des danses indiennes sacrées qui vont être données par la fameuse Zelle MacLeod, que l'on connaît mieux sous le nom de Mata Hari. Alors, Mata Hari, que l'on pourrait traduire par aurore en javanais, est en fait un personnage qui gagne, non pas ses galons, mais en tout cas son nom, au musée Guimet. Lorsqu'il la rencontre, Émile Guimet est déjà très âgé, hein, il meurt en 1918, donc il doit avoir un petit peu moins de 70 ans. Donc c'est déjà un assez vieux monsieur, il la voit se produire, elle est très impressionnée et il lui dit « Il faut absolument que vous veniez danser au musée Guimet, vous seriez pour un soir la perle de ce lieu ». Donc elle vient se produire, elle donne 3 danses successives, évidemment avec de la musique, évidemment en quelque sorte en invoquant le dieu de la danse, Shiva, qu'on appelle Shiva Nataraja. Et on a remis en place le temps d'une exposition qui s'appelle « Du nom à Mata Hari » qui vient d'ouvrir au musée, la sculpture de Shiva qui était effectivement disposée dans la bibliothèque lorsqu'elle a dansé. Et aujourd'hui, nous sommes mardi, nous ne le voyons pas, et nous projetons aussi les photos que nous conservons en fait de la belle Mata Hari dansant dans la bibliothèque. Alors évidemment, ça a laissé, je dirais, une trace presque sulfureuse. Au cours de 3 danses, elle se déshabille de plus en plus, il faut bien le dire. Elle termine dans un justaucorps couleur chair, ce qui fait qu'évidemment, dans la pénombre, on avait tendance à croire qu'elle était nue, juste vêtue d'un petit soutien-gorge orfévré tout à fait ravissant. Et elle termine, en quelque sorte, pâmée devant la sculpture du dieu Shiva. Alors ça fait des sensations. Et quand même pour redonner contenance à son public ébahi, elle s'est rhabillée à un moment et elle a donné un spectacle de marionnettes javanaises, et ces marionnettes, nous les avons toutes retrouvées, elles sont exposées juste en dessous, voilà, et on la voit d'ailleurs, on a des photos, on la voit manipuler ces marionnettes pour donner un spectacle.
Se faire une idée tout de même, alors je recommande à nos auditeurs qui n'auraient jamais vu ce film, moi je l'ai revu en préparant cette émission, mais donc la Mata Hari avec Greta Garbo qui fait ça avec beaucoup de sensualité, elle aussi ça donne une idée de ce que devait être l'original. Hein.
Vous êtes alors oui, il y a une journée Mata Hari qui est organisée au musée, à la fois où on montre le film avec Greta Garbo, mais aussi un film avec Jeanette Moreau qui est un petit peu moins connu, et puis évidemment une journée autour du mythe de Mata Hari, qui est un personnage effectivement qui a marqué de façon assez forte le musée. Et évidemment tout ça se termine tragiquement, on le rappelle, puisque quelques années plus tard, c'est en 1917 si je me souviens bien, elle est exécutée pour espionnage à Vincennes, voilà, au petit matin. Donc c'est la fin d'une histoire je dirais, qui était presque une histoire de comédie au départ.
C'est Georges Delerue qui a composé en 1965 cette bande originale, musique très évocatrice pour une Mata Hari, incarnée sur le grand écran par Jeanne Moreau. La comédienne française succédait à Greta Garbo dans le rôle de la célèbre danseuse exotique et érotique. C'est au musée Guimet, à Paris, que la jeune femme avait gagné son surnom Mata Hari, comprendre le soleil ou l'œil de l'aurore.
France Musique.
On va essayer de voir si on peut atteindre l'exposition, mais je ne vous promets rien.
C'est l'air des lieux jusqu'à 17h et depuis l'archipel indonésien et l'île de Java qui a inspiré ses danses sulfureuses à l'espionne Mata Hari, nous remontons vers le continent, vers le Cambodge et bientôt vers la Chine. Nous sommes en compagnie de Sophie Macariou, la présidente du musée Guimet, musée des arts asiatiques à Paris.
Alors, vous disiez tout au début de l'émission une chose qui est importante, c'est le plus grand musée d'art asiatique hors d'Asie. Alors, peut-être pas par le nombre de mètres carrés, on est déjà un peu à l'étroit, même très à l'étroit, puisqu'il y a plus de 60 000 œuvres dans les collections. Mais c'est le seul musée où on voit toute l'Asie dans toute sa diversité. Et quand on est un visiteur chinois, par exemple, il faut savoir que les Chinois sont maintenant la première nation touristique à Hong Kong. Eh bien, on peut découvrir dans un étonnant raccourci sa civilisation mise en parallèle avec le Cambodge, l'Inde. Voyez, on fait un tour de l'Asie, je dirais, presque dans un mouchoir de poche. C'est quand même assez extraordinaire. Donc ce musée, pour les touristes asiatiques qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi, bien sûr, pour les Français, c'est un lieu où on peut venir explorer l'Asie à deux pas de chez soi, venir se documenter, repartir, voyez, et on a là tous les pays de l'Asie réunis en un seul lieu. Donc c'est quand même assez extraordinaire et totalement unique.
À propos de la Chine, je me suis dit qu'en venant au musée Guimet, on pouvait entendre par exemple un opéra qui dure combien d'heures ?
Le pavillon des pivoines, j'espère que je ne suis pas imprécise si je dis 8 heures et j'hésite entre 8 et 9, mais je crois que c'est 8. Voilà. Ça, oui. Alors, on redonnera le pavillon des pivoines cette saison en intégrale. On s'en flatte parce que je pense qu'à peu près personne ne le fait. Donc, c'est une expérience unique. Et ça permet aussi bien sûr, de tisser des liens avec l'exposition qui a lieu en ce moment, Juno à Mata Hari, puisqu'on est constamment, en fait, dans une sorte de va-et-vient entre une exposition qui ne se veut pas, je dirais, statique, mais très ludique, très, voilà, évoquant toute la variété des traditions théâtrales de l'Asie, dans laquelle la musique joue un rôle très, très, très important.
Et
Et c'est quoi cet opéra fleuve, justement, le pavillon des pivoines?
Alors, ça appartient au répertoire de l'opéra de Pékin. Alors, la jeunesse de l'opéra chinois, de ce qu'on appelle l'opéra de Pékin, qui n'est qu'une des formes de l'opéra chinois, est assez longue. On considère que cette tradition commence à se mettre en place au XIIe siècle. En fait, elle prend sa forme, je dirais, à peu près actuelle, réellement à la fin du XVIIIe siècle, avec à la fois la codification des costumes, du répertoire. C'est un art très total, l'opéra de Pékin. On chante, on mime, on fait des acrobaties, on danse, évidemment, on dit un texte, tout ça dans un... J'irais un environnement très coloré, hein. Le décor tient essentiellement au costume. Il y a quasiment pas de décor dans les théâtres d'Asie. Et puis, c'est un théâtre, j'irais, qui est rené de ses cendres, et que, ce que montre bien l'exposition, puisqu'il a été extraordinairement ravagé par la révolution culturelle, puisqu'il a été interdit par la révolution culturelle. Et tous les costumes, en fait, ont disparu. Les costumes anciens de l'opéra de Pékin, à une exception près, qui est présenté dans l'exposition, j'irai à titre d'échantillon, on ne pouvait pas tout montrer, qui sont les splendides costumes de Chipépou. Chipépou, c'était un des plus grands acteurs de l'opéra de Pékin, né dans une famille de lettrés, et il avait, comme tous les acteurs de l'opéra de Pékin, lui-même hérité des costumes de ses maîtres. Et il a pu... Il a été envoyé, évidemment, il a été rééduqué, voyez, par le travail dans les champs, ce qui a d'ailleurs ruiné sa santé. Il a pu dissimuler ses costumes. Et il est arrivé en France dans les années 80 avec ses costumes miraculeusement préservés, qui sont des costumes du 19e siècle pour l'essentiel. Et ces costumes donc, se trouvent dans une collection française. Donc cette exposition, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à ce conservateur, en quelque sorte, de l'art de l'opéra de Pékin, qui était Chipépou, hein, qui est mort en 2009.
Ces pays ont quel rapport aujourd'hui avec cette tradition que l'on évoque, justement ?
Alors, en fait, elle est toujours vivante dans la plupart de ces pays. C'est-à-dire que, passé l'épisode terrible de la révolution culturelle, la Chine s'est remise à l'opéra de Pékin, donc elle l'a en partie réinventé. Bon, Le théâtre de marionnettes existe encore, bien sûr, et de nombreuses autres formes de théâtre en Chine. Le Cambodge pratique toujours, bien sûr, le théâtre d'ombre. Les ombres, c'est vraiment une constante, je dirais, des théâtres de l'Asie, du Japon, en fait, jusqu'à la Turquie. Si on pense à ce qu'on appelle le karagöz en Turquie, c'est aussi une forme de théâtre d'ombre. Donc, en fait, presque toutes ces formes théâtrales, elles existent encore et elles sont toujours pratiquées. Alors de façon, je dirais entre guillemets, plus ou moins répétitive, bien sûr, le vrai danger du conservatoire, c'est qu'il fige des traditions. Donc, je dirais, c'est inexorable, le passage du temps menace ces traditions. Et c'est leur possibilité de se réinventer, de se réécrire, de se moderniser, qui d'une certaine façon, on assure la transmission vivante et non pas, je vais dire un mot terrible pour un conservateur de musée, non pas uniquement comme une chose de musée. Oui. Voilà. On va rentrer dans l'exposition. Un des éléments, donc je le disais, d'unité de ces théâtres, ce sont les ombres, parce qu'en fait le même répertoire peut être donné souvent soit par le biais d'acteurs, soit par le biais de marionnettes, ou par les ombres, qui sont d'une extrême variété. Alors ici on a une petite vitrine que j'aime beaucoup, qui est dédiée à un ensemble de marionnettes qui est à la fois des œuvres du musée du Quai Branly qui a beaucoup prêté, et des œuvres du musée Guimet, et qui sont bien sûr indonésiennes, mais on verra, on retrouvera des marionnettes en Chine, au Japon. Il y a des marionnettes évidemment dans le reste de l'Asie du Sud-Est, en Inde également. Et puis ces ombres, là aussi, elles déploient en fait toute cette géographie très variée. Donc en face de vous, vous avez ces ombres très colorées, tout à fait superbes, qui sont des ombres indiennes. Ici, les très grandes ombres, absolument somptueuses, qui sont des ombres du Cambodge, qui appartiennent aux collections du musée. Vous avez évidemment les ombres indonésiennes, les ombres thaïlandaises, et puis dans un répertoire tout différent, les ombres chinoises, les fameuses ombres chinoises, si je puis dire, dont on apprécie l'extraordinaire minutie. Alors, tout ça est taillé donc dans des pots, estampé, hein. C'est d'une finesse absolument inouïe. Et puis là, on retrouve, évidemment, on voit immédiatement qu'on a changé d'argument. C'est-à-dire qu'on a quitté un univers qui est uniquement, je dirais, un univers en quelque sorte peuplé de démons, pour entrer dans un autre répertoire qui est celui d'un théâtre plus historique, qui est vraiment quand même la marque essentielle du théâtre chinois et d'ailleurs du théâtre japonais. Voilà. Ça, c'est un ensemble absolument extraordinaire, prêté par la Fondation de Oriente à Lisbonne, qui conserve la collection en particulier rassemblée par Jacques Pimpano, grand spécialiste de la Chine et de toutes les formes du théâtre asiatique.
Thank you.
On poursuit notre visite ici du musée Guimet avec vous, Sophie Macariou, et singulièrement donc dans cette exposition consacrée au No du No à Matahari, 2000 ans de théâtre en Asie. Et alors, on découvre ici donc une salle de cette exposition consacrée à ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure dans l'une des autres salles de ce musée des arts asiatiques, c'est l'Opéra de Pékin.
Absolument. Alors, l'Opéra de Pékin, qui est donc ce répertoire qui se codifie assez lentement. Alors, on a tendance à mettre évidemment, je dirais, sous une seule bannière toute la création théâtrale et musicale en Chine. Alors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Vous imaginez qu'à l'échelle d'un pays continent comme la Chine, il y a évidemment beaucoup de formes théâtrales différentes. Mais c'est vrai que c'est autour, évidemment, de la cour des Qing, donc la dernière dynastie chinoise, en quelque sorte se cristallise ce théâtre le plus connu de l'Occident. Mais en fait, sa connaissance arrive tard en Europe. Hein. C'est vraiment les théâtres indiens qu'on connaît d'abord. Et cet opéra de Pékin, donc, il est la résultante d'une tradition théâtrale extraordinairement riche, dont on voit en fait les premiers témoignages au moins dès la période des Han, on va dire le premier empire chinois, hein, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, où on a déjà une tradition à la fois d'acrobatie, de musique, de danse, avec ce qu'on appelle les fameuses manches aquatiques, dont ces sortes de voiles qui sortent des manches et qui en quelque sorte amplifient les mouvements des bras. Et en fait, cet élément de costume, on va le retrouver. On a là des bons exemples, évidemment, sur tous les costumes de l'Opéra de Pékin. C'est-à-dire que tous ces magnifiques costumes, absolument extraordinaires, sont codifiés pour incarner les grands caractères ou les grands types de rôles de l'Opéra de Pékin. Alors, petite incise, il faut le dire, tous les rôles sont tenus par des hommes. Et alors, Shi Peipu, dont on a une photo juste là, est absolument, avait une espèce de physique incroyable et je dirais totalement versatile. Il était d'une très très grande beauté, cet homme. Il est sublime, hein, il faut le dire.
Un peu androgyne.
Assez androgyne. Il était très frêle, ce qui fait qu'on était obligé de rembourrer ses robes. Parce que, évidemment, il n'avait pas tout à fait la carcasse, vous voyez, pour porter des costumes quand même très très impressionnants. Et il pouvait évidemment, la plupart de ces acteurs de l'Opéra de Pékin se spécialisaient dans tel type ou tel type de rôle. Et lui, il passait des rôles de femme au rôle d'homme. Il changeait vraiment de rôle. Donc il avait une véritable versatilité théâtrale, qui était en particulier favorisée par son art vocal. Il chantait très bien. Et il avait une réelle capacité à moduler sa voix. Donc il se glissait dans tous les personnages. Ce qui fait que cette collection de costumes, elle est extraordinaire. Sa collection de costumes, qui est en partie les costumes qu'il a hérités de ses maîtres, parce qu'il y a tous les types de rôles, en fait, qui sont représentés.
Et alors, vous en disiez déjà quelques mots tout à l'heure dans une autre des salles de ce musée Guimet, Sophie Macariou, mais j'ai sous les yeux le panneau qui nous accueille justement dans cette salle d'exposition consacrée singulièrement à l'Opéra de Pékin, interdit donc pendant 10 ans, pendant les années de la Révolution culturelle, par l'épouse de Mao, remplacée donc à l'époque par un opéra réaliste socialiste, et puis on rétablit tout cela lorsque, oui, ce qu'on appelait la bande des quatre, hein, sont destitués. Donc ça a été une période extrêmement douloureuse, j'imagine, pour tous ces artistes, et aussi pour tout un pan multiséculaire de cette tradition.
Oui, ça a été une période de ravage, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ces costumes de l'Opéra de Pékin ont disparu, ils ont été détruits. C'est pour ça que présenter cet ensemble des costumes de Shi Peipu, c'est exceptionnel. Parce qu'avec beaucoup de clairvoyance, il a caché ses costumes, il les a confiés à des amis, et il a pu les faire sortir de Chine. Et quand enfin il a pu sortir de son pays, ses costumes avaient été mis à l'abri, et donc on a retrouvé ce trésor absolument intact, et c'est la première fois qu'on montre les costumes de Shi Peipu. Donc c'est, voilà, je pense qu'il faut apprécier ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'antérieur à la révolution culturelle, si ce n'est ce qu'on voit ici.
Donc, c'est extraordinaire, même... hein, je veux dire, les matériaux, les couleurs, enfin, les formes, c'est absolument magnifique.
Et alors, évidemment, en remplaçant les tissus damassés, donc les tissus, oui, très complexes qui étaient faits pour les costumes chinois. Ces costumes de scène étaient destinés évidemment à être vus de loin. Donc on a en quelque sorte amplifié les décors. Ce sont des décors de broderie, en fait, de, comme on dit, de fil couché, sur des couleurs extrêmement vives. Donc on a une espèce de feu d'artifice de couleurs et de matières. Et il faut quand même imaginer que Chipépou a pu faire venir en France cette incroyable coiffe, par exemple, avec les plumes de faisans vénérés qui couronnent cette coiffe extraordinaire. C'est très émouvant parce que, je dirais, c'est à la fois un témoignage vraiment exceptionnel sur cet art de l'Opéra de Pékin, hein, puisque maintenant, ce qu'on voit... par exemple, au musée de la capitale à Pékin, ce sont des costumes récents qui ont été refaits après la révolution culturelle. Et d'autre part, parce que quelque part, il y a un peu l'âme de Chipépou avec nous, là. Alors, on continue sur le Japon. Dans la salle suivante, on présente les costumes de Kabuki et les costumes de Nō de l'autre côté. Les costumes de Nō, qui sont donc ces pièces extrêmement codifiées, réellement réservées à l'aristocratie japonaise, qui pouvaient être couverts de ce qu'on appelle des shokken, ces extraordinaires vêtements de gaze transparents, splendides. Et en fait, on voit par exemple sur les deux très beaux kimonos de Nō qui sont présentés ici, que l'on évoque, on a un décor qui est exclusivement un décor naturel. Pourquoi ? Toujours cette absence de décor de scène fait que le costume, en fait, vous donne la saison, l'heure de la journée. Donc vous avez une sorte d'habitude de la part de ces spectateurs de décrypter très finement le décor du costume qui vous indique, par exemple, sur celui-ci, qui est absolument superbe, qui appartient au musée, que c'est une scène qui se passe dans la montagne, à l'automne, puisque les feuilles d'érable sont devenues rouges.
Est-ce que rappelle le panneau de cette salle d'exposition, théâtre d'acteurs japonais, Nō et Kabuki, les origines tout simplement du mot Kabuki, théâtre populaire dont le nom signifie chant, ka, danse, bou et jeu de scène, ki. Donc voilà, Kimmel, c'est trois composantes artistiques.
Un art complet. Et c'est le seul art, le kabuki, non pas le Nō, mais le kabuki, pour lequel on a fini par créer un lieu spécifique. Donc il y a, je dirais, un espace scénique très particulier, avec des dispositifs scéniques très, très originaux, comme des sortes, qu'on a repris d'ailleurs dans le théâtre occidental ensuite. Je dirais, les gens comme Villard en ont fait leur affaire aussi. En particulier, ces sortes de grandes passerelles qui traversent la zone où sont assis les spectateurs. Donc on construit là des lieux spécifiques dans ces quartiers de théâtre d'Edo, donc de l'actuel Tokyo. Et en fait, les acteurs de Kabuki peuvent donc surgir en fait, dans l'espace où sont assis les spectateurs. C'est un dispositif scénique qui en fait, nous semble très moderne, mais qui est évidemment ancien au Japon. Par un ensemble, une apothéose extraordinaire. Alors, outre un ensemble d'estampes magnifiques de Kogyo, qui est un splendide ensemble de 41 estampes montrées en deux rotations, parce que les estampes, c'est fragile, et que le musée est le seul à avoir, à détenir complètement. Donc, on a toute la série, ce qui est absolument superbe. On montre un très très beau costume de Nō qui a été fait par un tisserand actuel, Mais c'est le rideau avant, si je puis dire, la fin du spectacle, qui sont les extraordinaires kimonos d'Ichiku Kubota. Alors, Ichiku Kubota était un très grand maître japonais qui a réinventé des techniques de tissage, de teinture, de liage, de broderie pour fabriquer ses vêtements spectacles. Donc, qui était en fait l'élément essentiel de sa recréation du no. Il a lui-même écrit des pièces de no, donc il a reformé tout un répertoire. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration du fait que c'est le costume qui est le décor dans le théâtre d'Asie, et en particulier au Japon, et en particulier dans le no. C'est-à-dire que si on regarde cette extraordinaire série de kimono qui s'appelle le Mont Fuji, on voit qu'il a dépeint, il n'y a pas d'autre mot, même si évidemment ce sont des créations textiles, et ça n'est pas peint sur le textile, il a décrit le Fuji à plusieurs heures de la journée, à différents moments de l'année, tantôt dans les brumes, tantôt dans la lumière du matin. Et il tenait absolument, et on les a évidemment exposés comme cela, à ce que ces fabuleux kimonos soient exposés hors vitrine, pour qu'on en apprécie la texture. Et quand on le voit, je pense qu'on ne peut que lui donner raison. Et c'est un privilège pour les visiteurs de voir de si près ces œuvres qui portent aussi la marque du goût qu'il avait pour Claude Monet. C'est-à-dire qu'on voit évidemment, on est dans un kimono presque impressionniste, avec des effets de floquet, de matière, de teinture, de relief, absolument inouï, quoi. Et c'est assez intéressant parce que, évidemment, au moment où on a installé l'exposition, il y avait beaucoup de conservateurs, beaucoup de gens de musée qui étaient là, et un très grand spécialiste anglais du textile qui est venu voir l'exposition et qui nous a dit, complètement fasciné, qu'il ne comprenait même pas comment ces œuvres étaient faites. Michael, c'est vous qui alliez allumer ? Là, on pourra éteindre. Merci beaucoup, c'est gentil.
Et je ne peux que vous inciter à aller pousser les portes du musée Guimet, le musée national des arts asiatiques. C'est au 6 place d'Iéna à Paris, dans le 16e arrondissement. Vous l'aurez compris, ces collections permanentes y sont sans équivalent en Europe et partout d'ailleurs en dehors de l'Asie. Cette exposition superbe que nous avons très rapidement traversée cet après-midi, du No à Matahari, 2000 ans de théâtre en Asie, se tient jusqu'à la fin de l'été. Beaucoup de musique aussi, bien sûr, en contrepoint de cet événement. Et par exemple, les 23, 24 et 25 mai, l'auditorium du musée proposera d'entendre le pavillon aux pivoines. C'est au total pas loin de 20 heures d'un opéra filmé à Paris. C'était en 1999, dans le cadre du festival d'automne. Et quant à nous, eh bien, on se quitte avec cet Ave Maria aux harmonies chinoises, vous allez l'entendre. Ave Maria qui conjugue au fond les deux passions d'Émile Guimet, l'histoire des religions et la culture asiatique.
Thank you.
C'est avec cet Ave Maria, musique d'un anonyme chinois, que l'on referme ce numéro de L'Air des Lieux. La voix de Montserrat Figueras, un extrait de l'album La Route de l'Orient, conçu par Jordi Saval. C'est Agnès Catou qui a réalisé cette émission. Un grand merci à elle et à Jean-Michel Coqui qui était avec nous aujourd'hui pour le mixage. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, c'est sur francemusique.fr. À bientôt.